Que lo siga el coche.
Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, y mi vida se cambiará.
Por favor, presten atención. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible.
Cine Horizontes, Lucien Festival de Cinema Español de Marseille. Du 8 au 16 novembre 2013, au Cinéma Librado dans les Salles Partenaires.
Estamos en un momento difícil de la vida, señora.
Cine Horizontes, no te lo pierdas.
Imaginez, vous avez une vingtaine d'années en 1975, la fureur de vivre au bord des Lèbres, et vous vivez en Espagne, dans un pays sclérosé par plus de 30 ans de dictature. Alors quand les verrous de celle-ci sautent, avec l'intensité d'un bouchon de champagne après la mort de Franco, les vannes de créativité, de jeunesse et de liberté jusque-là sous-jacentes mais bridées, n'avaient plus qu'à s'exprimer, et cette fois-ci, sans limite. Résultat, c'est une explosion culturelle et artistique impulsée par Madrid dès les débuts de la transition démocratique qui touche l'ensemble de l'Espagne et qui la marquera en profondeur. On l'appelle la Movida. Plusieurs courants européens et américains déferlent sur une jeunesse portée par un élan vital de renouveau. Le rock, le punk, le glam transpercent enfin les frontières et David Bowie ne s'écoute plus sous le manteau. Libération des mœurs, vitalité et exubérance deviennent le père, le fils et le Saint-Esprit des madrilènes. Musique, cinéma, photographie, art plastique, toutes les disciplines y passent et peuvent enfin briser les cadres. On retient de cette période faste évidemment Pedro Almodovar pour le cinéma, Mecano pour la musique et bien d'autres. Et ce sont justement certains acteurs culturels espagnols de ces années 80, mais aussi d'aujourd'hui et de demain, qui nous accompagneront pendant cette émission spéciale « La Movida, la vie ne se vit qu'une fois ». Cette Movida, justement, a été l'objet d'un hommage lors de la 12e édition du festival de cinéma espagnol Cine Horizontes qui s'est déroulé à Marseille du 8 au 16 novembre. La créativité en temps de crise, un remède imparable peut-être à l'amorosité ambiante d'une époque, c'est le fil rouge que nous allons dérouler ensemble pendant près d'une heure. Chers auditeurs, restez à mes côtés, laissez-vous envahir par les ondes madrilènes, déployez vos antennes, vous êtes évidemment sur les ondes de la grenouille. Don't tell them to blow up on all of it. J'ai ainsi le plaisir d'être accompagnée pendant une heure dans les studios de Roxana Nadim, vice-présidente du festival Ciné Horizontes. Nous ferons d'ailleurs tout à l'heure un retour sur le palmarès du festival. Bonjour Roxana.
Bonjour Mélanie.
Comment ça va?
Très bien.
Est-ce que remise de cette folle semaine de festival?
Doucement.
Doucement?
Doucement.
Avec une bronchite, tout ça?
Voilà.
Bon, d'accord, on va essayer d'en parler quand même alors.
Oui.
Justement, pendant le festival, en parallèle des films en compétition, le coup de projecteur qui a été mis sur la Movida a fait l'objet de projections, notamment des premiers films d'Almodovar, de conférences et d'invités, on peut le souligner, d'exceptions, comme Javier Camara, Angela Molina ou Kalele Alberto Garcia Alix, que j'ai eu la chance de rencontrer et dont les voix vont nous accompagner aujourd'hui. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet en essayant d'abord de définir ce qu'a été la Movida. Grâce à l'éclairage avisé de Magali Dumoussol-Esquer, maître de conférence à l'Université d'Avignon, qui sera et qui a été notre spécialiste de la contre-culture madrilène des années 80 et des courants émergents en Espagne. Nous nous sommes rencontrés dans les coulisses de l'Alcazar juste après la conférence du photographe Alberto García Alix. On écoute. Qu'est-ce que la Movida pour les gens qui ne connaissent pas
Alors la Movida, c'est en réalité la partie la plus commerciale d'un phénomène qui débute justement dans l'underground dès le début des années 70, c'est-à-dire sous la dictature franquiste, Franco donc le dictateur qui meurt en 1975. Et dès le début des années 70, on a certains madrilènes qui sont intéressés par justement cette contre-culture qui arrive des États-Unis. Et qui est surtout une contre-culture musicale et en relation avec la bande dessinée, donc les comics nord-américains de Robert Crumb, de Gilbert Shelton par exemple. Et donc il ne faut pas imaginer tous les madrilènes, bien sûr, en train de lire les BD de Robert Crumb, mais certains jeunes madrilènes qui ne se reconnaissent pas dans la culture officielle, la culture établie, qui est totalement empreinte donc de l'idéologie franquiste, et qui vont chercher dans cette culture nord-américaine une culture d'adoption dans laquelle ils se reconnaissent.
Alors justement, une culture d'adoption dans laquelle ils se reconnaissent contre la culture classique, finalement. Moi, je pense, quand j'entends ça, souvent à Jack Kerouac, au beatnik, à la beat generation, aussi à l'addiction à la drogue, hein, finalement, qui est très présente aussi dans la movida. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là ?
Tout à fait. Kerouac, Ginsberg, ce sont des auteurs qui ont influencé les futurs artistes de la movida. On peut parler de movida uniquement à partir de 1982, qui est la date à laquelle le terme apparaît et est repris par la presse, qui a besoin d'identifier, de donner un nom à ce phénomène qui est en train de, non plus d'émerger, mais de se révéler. Et c'est intéressant de voir que justement le terme de movida qui est choisi est un terme directement en rapport avec la drogue. On parle beaucoup de movida pensant qu'il s'agit du verbe mover, bouger, parce que Madrid se met à bouger à ce moment-là. En réalité, le terme movida vient d'une expression hacer una movida, qui signifie à l'époque quitter le centre de Madrid pour aller s'approvisionner en shit, en chocolat, etc. et revenir consommer ensuite au centre de Madrid, là où se développe cette culture, alors qui est une contre-culture, pas forcément contre, qui est plutôt une culture parallèle, c'est-à-dire qui se développe parallèlement à la culture établie sans pour autant l'attaquer.
Alors, quelle esthétique, justement ? Qu'est-ce que l'esthétique de la movida, si on peut...
Alors, l'esthétique de la movida, elle évolue. Il n'y a pas une esthétique. Dans la phase underground de ce phénomène, on va avoir une esthétique punk, puisque le punk donc apparaît à partir de 76 à Londres notamment, que ces jeunes modernos font le voyage à Londres et ramènent de Londres eh bien, des disques, des cassettes, les fameux t-shirts de McLaren et de Vivienne Westwood, et qu'ils vont diffuser ça après auprès de leurs amis à Madrid. Donc la première esthétique, l'esthétique underground, elle est surtout empreinte du punk. Et puis, au début des années 80, lorsqu'on passe à la deuxième phase du phénomène qui est la nueva ola, donc la nouvelle vague pop, où on va avoir un pop revival, un retour à la culture pop populaire, c'est-à-dire à la fois le pop art, mais aussi des courants pop qui n'étaient pas arrivés jusqu'en Espagne. Au début des années 70, je pense notamment au glam. Donc là, David Bowie, connu voilà, sous le nom de Ziggy Stardust, on va avoir une esthétique beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie, avec des paillettes, mais avec toujours le même sens. C'est-à-dire qu'au moment du punk, le t-shirt punk avec toutes les impressions est un discours. C'est-à-dire, que dit le punk ? Il y a souvent un contresens à ce niveau. Quand on voit sur un t-shirt punk une multitude de signes, on va avoir jusqu'à la croix gammée, par exemple, qui va côtoyer le symbole de l'anarchie, et très souvent on pense que le punk qui arbore la croix gammée est un néo-nazi. Attention, ce que dit le punk, c'est qu'il doit se forger une identité sur tout ce qu'il a reçu, et que lui a laissé la société, eh bien, une multitude de signes. Il doit se forger son identité à partir de ça, et cette multitude de signes arrive au non-sens. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas se forger une identité positive, d'où le no-futur. Au niveau à l'époque de la Nueva Ola, on va avoir plutôt une esthétique glam, mais on est dans le même registre. L'esthétique glam, c'est montrer à la vue de tous ses désirs refoulés, montrer qui on est réellement. Et très souvent, quand on voit l'esthétique glam, on apparente ça à un disfrace, à un déguisement. C'est tout l'inverse. Le déguisement, à l'époque, pour ces jeunes modernos, c'est le costume cravate.
C'est faire sortir ce que l'on est vraiment.
C'est faire sortir ce que l'on est vraiment, et de la façon la plus voyante possible, car il ne faut pas oublier que jusqu'en 1978, ces jeunes marginaux sont en Espagne sous le joug de la ley de peligrosidad social, c'est-à-dire une loi qui fait d'eux des dangers pour la société. Et donc, ils n'ont pas de véritable existence officiellement. Donc, le fait de pouvoir plonger dans ce pop revival et de pouvoir prendre cette esthétique pop va leur permettre une véritable révélation.
Et une libération.
Et une libération, mais voyante, c'est ce qui est important.
Une révélation et une libération voyante. Roxane Anadim, vice-présidente du Ciné Horizontes, qui est avec moi. Tu es plutôt punk, rock, pop ou glam ?
Waouh ! Je suis pas pop. Ça dépend pop, en fait, l'esthétique pop.
Waouh, c'est hyper dur.
Une des esthétiques de la Movida que tu choisirais comme ça, de but en blanc.
De punk et glam à la fois, ouais.
C'est bien ça, donc très Bowie, Lou Reed, tout ça.
Ouais.
Et du coup, dans l'époque de la Movida en Espagne, s'il y avait une chanson comme ça à emporter sur une île déserte, ce serait quoi? Ce serait laquelle? Celle qui te vient à l'esprit tout de suite, comme ça.
La fameuse, la Estoy así, así seguiré, nunca cambiaré.
D'accord, c'est de qui ça? Tu sais pas?
C'est... Non plus. Si, non, ça doit être Alaska, non?
Alaska, ouais, d'accord. Et du coup, sur ce que disait Magali Dumoussoul-Esquer, là, sur l'esthétique de la Movida, c'est ce que vous avez voulu montrer dans ce festival aussi? Cette esthétique-là, comme ça, un peu à la fois paillette et puis aussi un peu sombre?
En fait, elle le dit très bien, Magali, la Movida est devenue une étiquette, enfin c'est une image de l'Espagne qui est commerciale et vendeuse. Et ce qu'on vend de la Movida, c'est un aspect festif, alors qu'il y avait un lado muy oscuro, une dimension très très noire dans cette Movida qui était liée aussi, elle le dit très bien, Magali, à la consommation de drogue. Et donc, dans notre programmation, on a voulu mettre en évidence ces deux aspects de la Movida. Se destaper, le destaper, c'est-à-dire quand le bouchon explose et qu'il y a cette espèce de grand vent de liberté qui vient avec tout ce que ça suppose de joie, et qu'on voit notamment à travers les films de Almodóvar qu'on a programmés. Et puis, cet aspect un peu plus sombre qu'on voit à travers notamment le film de Alberto García, Alix, de Donde no se vuelve.
Dont on va parler tout à l'heure. Alors, la Movida, c'est aussi un tourbillon musical, un âge d'or de la pop espagnole. Je vous propose d'en écouter un des morceaux phares pour faire une petite pause musicale. Ça s'appelle Veneno en la piel, le poison dans la peau, de Radio Futura, considéré comme le meilleur groupe de pop espagnol des années 80.
Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza. Prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada? De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él.
Vous venez d'écouter Veneno en la piel de Radio Futura, un morceau proposé par Véronica que vous pouvez retrouver en intégralité parmi d'autres dans la chronique sur la musique pendant la Movida, chronique de la Rumba que Tumba sur Radio Grenouille. Si vous nous rejoignez, sachez que c'est en Espagne que vous débarquez. Vous êtes toujours et encore dans l'émission spéciale La Movida, la vie ne se vit qu'une seule fois. Dans un entretien réalisé avec la plasticienne de La Movida, Ukalele, entretien que vous pouvez retrouver sur le site de Grenouille, l'artiste nous confie « La Movida, on ne l'a pas reçue, mais on l'a faite, on l'a vécue pleinement, sans réserve. On savait dans les années 80 que l'on était acteur d'un moment essentiel de l'histoire de l'Espagne. » Malgré sa coloration, on l'a dit avec Roxana, indéniablement burlesque, joyeuse et vivante, la Movida madrilène n'a pas été qu'une période rose. En effet, elle fait également écho à des mots comme drogue, excès, jeunesse désœuvrée en recherche de nouveaux repères, un monde duquel d'ailleurs beaucoup ne sont pas revenus. Là d'où on ne revient pas, De donde no se vuelve, c'est d'ailleurs le titre du documentaire poignant et d'une sincérité percutante, réalisé par Alberto García Alix, un des grands artistes de la Movida et prix national de photographie en 1999. Et à travers ce film, sorti à l'occasion d'une grande rétrospective de son œuvre au musée Reina Sofia de Madrid, il nous livre sa vision et surtout son vécu de ces années folles à l'espagnol dans un milieu underground marqué par l'intensité de la vie, certes, mais également par l'absence, le vide et la mort. Nous avons eu l'honneur de rencontrer ce rocker tatoué au cœur tendre, un témoignage précieux d'une époque entre ombre et lumière, entre anges et démons, époque de laquelle on revient, si l'on en revient, marqué à jamais dans la chair. La Movida pour toi c'est quoi? Vraiment en quelques mots.
Sur le plan personnel, la Movida a été une étape de ma vie et en général un vent de modernité impulsé par une certaine partie de la jeunesse qui a soufflé sur l'Espagne.
Et est-ce que c'est pour toi quand on dit contre-culture, est-ce que tu te retrouves dans le mot contra-cultura, contre-culture?
Non.
Non. Dans les premiers temps, à partir de la mort du dictateur, la contre-culture était tout ce qui n'appartenait pas à la culture officielle, tendance de la jeunesse, en musique, cinéma, littérature, photographie. Tout cela représentait la contre-culture de l'époque. Ça n'était pas la culture officielle, c'était juste une culture d'un autre type.
De quel type ?
Des tendances culturelles influencées par la contre-culture américaine.
Dans ces photos qu'on voit, c'est quand même des photos assez dures, assez sombres. La défonce, la drogue, la maladie, la mort, l'angoisse. Aujourd'hui, de quoi tu as peur, Alberto ?
De moi-même.
De toi-même.
De la décadence physique. La peur est toujours présente dans nos vies.
Et de quoi tu as peur quand tu vois ton pays, l'Espagne, qui est en crise profonde encore aujourd'hui?
C'est une peur complexe et profonde. Oui, la situation actuelle en Espagne ne me convient pas du tout. Nous sommes en train de vivre une crise politique profonde, une perte de foi et d'espoir en notre classe politique, une désillusion continuelle, des coupures budgétaires dans le milieu de la santé. C'est trop compliqué de parler de ça. Ça me fait beaucoup de peine.
Dans les photos qu'on voit donc dans ce film, on voit beaucoup de marges, on voit beaucoup de transsexuels, de corps mutilés, de corps abîmés, transformés, une sorte de monstre finalement, au sens monstrueux mais au sens positif, c'est-à-dire hors du commun. Et dans ce film, tu dis, le portrait est une confrontation directe avec ces personnages. On sent une fascination et en même temps une tendresse, un regard porté sur ces portraits.
J'ai beaucoup de tendresse pour les gens dont je réalise le portrait. Tous ces gens-là sont mes amis. Et moi, je suis un des leurs. Je circule dans mes photos comme un personnage de plus. Je ne vois pas là de marginalité. Je prends toujours les gens en photo avec beaucoup de respect. Je ne cherche jamais à les montrer comme des monstres. Moi, je ne suis pas capable de cela.
est tous le fou ou le marginal de quelqu'un, et toi Alberto?
Exactement. Je dis toujours à mes amis lorsque je vais les photographier que je prends en photo des monstres, car moi aussi je suis l'un d'entre eux.
On voit aussi beaucoup d'images de la nuit, qui est un terrain de jeu que tu as l'air d'affectionner. La nuit est-elle nécessairement sombre? Est-ce qu'elle est nécessairement noire?
Il n'y a pas de lumière, non? On distingue moins les péchés dans la nuit.
Et cette influence, quand tu fais de la photo, on sent que c'est une vraie passion à l'époque, ou presque un amusement, presque un jeu. Et tu partages cette intimité finalement avec aujourd'hui, nous, le spectateur de ces photos. Quand tu faisais ces photos, tu t'imaginais un jour être au Reina Sofía?
Jamais, c'est pas impossible.
Et le Reina Sofía, ce musée, c'est quand même une institution à Madrid, donc... Quel est ton rapport à l'institution?
Hombre, c'est le plus grand musée de l'art moderne, non? Le Reina Sofía. Bon, qu'est-ce que j'ai pu dire, non? L'important, c'est que me donnait la liberté pour faire le travail de les vidéos. Et quand le musée m'a offert l'exposition, je lui ai dit que je voulais faire un nouveau travail en vidéo pour expliquer le travail que j'ai fait.
Et dans le film, tu dis « Pour vaincre la peur, je suis capable de n'importe quel crime ». Est-ce que tu te sens criminel?
Bueno, oui, me siento capable
de cualquier pecado. Je me sens capable de n'importe quel péché.
Vamos a ver,
bon, poésie, en fait, c'est de la poésie, c'est une métaphore.
Pero sí,
mais oui, pour vaincre la peur, je suis capable de n'importe quel délit.
Encore aujourd'hui?
Aujourd'hui, plus que jamais, car aujourd'hui, je n'ai jamais eu aussi peur.
Donc, encore plus de... Tu as tellement peur que c'est encore plus... Tu es capable d'encore plus de péchés et de crimes.
Ça dépend de ce qu'on appelle un péché. Parce que le mot péché a une définition très péjorative. Ce que je veux dire avec cette phrase, c'est que je suis enfin capable de me pardonner.
Donc aujourd'hui, tu essaies de te pardonner?
Oui. Si.
Et tu dis aussi, je me demandais si j'ai passé mon temps à fuir ou à chercher l'impossible. Alors?
Si. C'est poésie pour intenter.
C'est de la poésie pour essayer de parler de moi-même, non? J'ai toujours été un éternel insatisfait, toujours en mouvement. Je n'arrivais jamais à tenir en place.
Bueno.
Cela fait partie de mon essence, de ma personnalité. Je ne sais pas. Ce sont des sensations poétiques que tout un chacun utilise pour s'exprimer.
Au final, moi, ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est la figure de l'artiste. Puisque l'artiste, on a souvent vu un artiste au-dessus du monde, alors que toi, tu es un artiste dans la vie, dans le monde. Et comment tu vois l'artiste?
Je ne sais pas. Je me vois, je me regarde. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour l'art. Je ne fais pas partie de ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je suis pas en contact avec d'autres artistes. L'art, c'est une confrontation avec soi-même, non? C'est se donner. Il faut réussir à trouver les moyens de se donner. Moi, au début, je ne me suis jamais senti artiste.
Et la photographie, tu dis que c'est un pont au-dessus de l'abîme. Est-ce que la photographie t'a sauvé?
Elle m'a sauvé d'être un inutile ou un fracassé.
Me salvo de eso.
La photographie m'a donné et me donne toujours la passion de vivre, la passion d'observer. La photographie est toujours un moyen pour regarder le monde qui m'entoure.
Et cette passion de la vie qui amène à la destruction, dans cette époque de la Movida par exemple, est-ce que cette passion de la vie, tu l'as transformée par la photographie pour en faire devenir quelque chose de créatif, de positif?
Oui.
En
quelque sorte, oui.
Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'homme aujourd'hui?
Même dans les pires moments de ma vie, j'ai toujours eu une bouée de sauvetage à laquelle m'accrocher.
siempre.
Toujours.
Me fuera mal.
Quand tout allait bien, bien ou mal, dans telle ou telle situation.
La photographie
a toujours été un ancrage, et plus encore, un ancrage qui m'a permis de continuer à avancer avec espoir. Un ancrage non pas simplement pour survivre, mais pour continuer à vivre avec espérance face à l'avenir.
Frente al futuro, sí.
Une espérance face au futur, ce serait peut-être ça, l'art. Roxane Anadim, qu'est-ce que tu en penses ?
Rien du tout. Je pense pas que l'art soit une espérance.
Face à l'avenir, non ?
Non, enfin, je pense que ce qui est bien avec l'art, c'est que ça échappe aux définitions. C'est un bonheur d'une intensité rare d'entendre à nouveau la voix de Alberto García Alix et ses mots. Et c'est très très beau d'entendre Alberto García Alix dire qu'on distingue moins bien les péchés la nuit.
Quelle voix. Ouais. Et ça fait quoi de recevoir un invité comme ça dans un festival aussi touchant, important, connu, contradictoire, paradoxal, beau?
Et c'est bouleversant et on est content, on est fier. On se dit que tout le temps qu'on passe pour faire un festival avec ce que ça suppose comme temps, comme ça vaut le coup parce qu'il y a des moments d'une grande beauté.
Alors on a eu son témoignage, du coup, Alberto García Alix, très, très personnel, hein, de son vécu d'artiste, mais aussi d'homme pendant la Movida. On va retourner avec Magali Dumoussoul-Esquer pour savoir ce qu'il reste aujourd'hui de la Movida. Qu'est-ce qui reste de la Movida aujourd'hui, en Europe peut-être, dans le monde en général?
Alors il reste quelques grands succès. Bien sûr, tout le monde connaît Pedro Almodovar, sachant que ce que fait Pedro Almodovar actuellement n'a rien à voir avec le cinéma underground de ses débuts, donc Pepi Lucibom, que vous avez pu voir au festival. Mais voilà, il ne faut pas oublier que sans Pepi Lucibom, il n'y aurait pas les films d'Almodovar actuels. Quelques grands succès, donc j'ai dit Almodovar. Agatha Ruiz de la Prada, la styliste qui maintenant a des boutiques un peu partout dans le monde, à Milan, à Paris, à New York, Ukalele, Alberto García Alix, qui sont deux photographes éminemment reconnus en Espagne et qui ont exposé partout dans le monde, notamment en France, à Arles, à Paris. Et puis...
C'est étonnant de voir que tous ces artistes-là, ils commencent par faire un peu de l'art comme une énergie du désespoir. Hein. On balance ce qu'on est, on libère, on casse les codes et qui deviennent un petit peu... qui s'institutionnalisent presque aujourd'hui.
Tout à fait. Cela correspond à la dernière phase du phénomène qui naît de l'underground, qui se révèle et qui après, donc dans la phase qui correspond vraiment à la Movida, tombe un petit peu dans le commercial.
Comme le punk aujourd'hui.
Comme le punk qui s'arrête en 78. Et voilà, et donc ce qui va entraîner aussi des crises au niveau des groupes musicaux notamment, avec des scissions, des reformations. Et puis, il ne faut pas oublier aussi toutes les victimes de la Movida, puisque l'idéologie de la Movida, et c'était le solo se vive una vez, on ne vit qu'une fois, donc c'était sex, drug and rock and roll, sachant qu'on
sans
est
limite.
Sans limite, on est au début des années 80, le sida va arriver vers 85, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes, des artistes et des fans, parce que les fans sont très importants dans le phénomène, qui vont mourir d'overdose, d'accidents liés à l'alcool, du sida, etc.
L'énergie du désespoir. L'énergie du désespoir. D'ailleurs, Roxane Anadim, dans l'édito du festival, voici ce que j'ai pu relever, que je trouvais intéressant. Vous dites, avec l'équipe, ainsi, contre vents et marées, Cine Horizonte sera cette année encore un moment de partage et de fête. On le voit, malgré la morosité ambiante, Cine Horizonte continue à être un festival joyeux, dynamique et exigeant, tissant sa toile par-delà les frontières. Alors justement, nous allons amorcer une douce digression vers un retour à proprement parler sur la 12e édition de ce festival. Un festival qui rend heureux, paraît-il. Alors j'ai voulu vérifier tout de même ce postulat de base sur le terrain. Et je suis allée, je sais que tu sais ce que je vais dire, mais je suis allée donc le vérifier jeudi 14 novembre, il n'y a pas si longtemps, je me suis plongée au cœur d'un bus musical. Bon. Je ne vous ai pas ramené, chers auditeurs, de Mojito, de Ramon de Patanegra, mais quelques morceaux choisis, ambiance, et on en discute après. Nous sommes actuellement dans le bus Cine Horizontes, qui fait la fête tout simplement, et qui traverse Marseille au rythme de la salsa.
de la charcuterie, de la sangria et du mojito. Jocelyne Fessel, comment ça va ce soir? C'est Radio Grenouille.
Ah, mais c'est la grande fête ce soir. Voyons, dans le bus transit, le bus musical du festival, on est là. Après ces séances où le public était si nombreux, nous sommes ravis, nous sommes heureux. Et là, on est en train de se défoncer avec le DJ Monchi, avec le bus transit et avec Radio Grenouille qui nous accompagne dans ces folies.
Et on partage votre bonheur, merci. Roxana Nadim, vice-présidente du Festival Ciné Horizontes, la 12e édition, comment ça va ce soir?
Très bien, bonsoir Mélanie Masson.
Bonsoir, on est face à la mer, il y a un peu de vent mais c'est agréable. On vient descendre du bus qui commence déjà à être en folie, mais ce n'est que le début. Comment tu te sens ce soir là?
Très bien. Heureuse, très bien, et toi?
Heureuse du début du festival ou pas?
Heureuse, on est en bout de course là, il nous reste plus que quelques jours.
Certes.
Mais superbe.
Ouais.
Très belle édition.
Une belle 12e édition.
Une très belle 12e édition.
Bon, il faut tenir encore un peu le coup. Hein.
Il faut encore tenir un peu le coup. Il est 23h10, on boit du rhum face à la mer, après avoir dansé dans un autobus.
Quemas.
Bien.
Quemas.
Quemas, et après avoir vu 4 beaux films.
Voilà, c'est ça. Bon, Roxana Nadim, on ne reviendra pas sur ce micro-trottoir, hein, ce bus-trottoir, je ne sais pas comment on peut l'appeler, micro-bus, mais en tout cas, c'était une belle soirée. Nous a rejoint dans les studios une jeune femme qui passe ses nuits dans les salles underground à dégoter de petits bijoux musicaux. Mieux que Patti Smith, elle a la voix sensuelle d'une rockeuse et elle est notre spécialiste aujourd'hui des festivals en tout genre. Lauriane nous a rejoint pour cuisiner, comme il se doit, notre invitée du jour, Roxana Nadim, vice-présidente du festival Ciné Horizontes.
Salut Mélanie, bonjour Roxana. Alors je commence tout de suite par la grande question piège. Un festival espagnol peut-il avoir une programmation exempte de Pedro Almodovar?
Oui. Évidemment. Mais alors, vous tombez mal parce que j'ai décidé de faire un vrai coming out depuis un an. J'ai décidé de dire que j'aimais pas Almodovar. Alors, c'est un peu emmerdant. J'adore Pepi Lucibom, j'adore Almodovar jusqu'en 85 et après, ça m'ennuie profondément.
C'est la révélation, hein, c'est exclu. Oui.
Donc voilà, alors voilà, il faut pas le dire. Voilà, ça va choquer tout le monde. Donc oui, évidemment, on peut faire du cinéma espagnol sans faire du Almodovar, heureusement.
Donc votre programmation sans Almodovar ou pas laisse volontairement une grande place aux nouveaux réalisateurs. Si on fait un parallèle par exemple avec la musique indépendante, les jeunes artistes, on va dire, passent en concert dans des lieux assez décomplexés, parfois à prix libre même, alors que pour Ciné Horizontes, les films étaient projetés dans les salles du Prado et à Alcazar, donc à Fort Roland MP13. C'était un choix volontaire d'ignorer tous les lieux culturels plus alternatifs à Marseille?
Alors, le Prado, ça n'a aucun rapport avec MP13. Hein. D'ailleurs, il y a très peu d'opérations MP13 qui ont eu lieu au Prado. Ça, on peut en parler à un autre moment. Donc, aucun rapport. Volonté d'ignorer d'autres lieux culturels, faux, puisqu'on était au Mucem, à la Villa Méditerranée, etc. Mais je comprends le sens
plus
de votre question.
Hein.
Oui, absolument. Moi, pour moi, le cinéma, c'est dans une salle. Alors ça, c'est vraiment un choix très important pour moi. Un film, ça se voit dans des conditions. Et ces conditions sont celles que seul un cinéma propose. Et le cinéma, le Prado, propose de merveilleuses conditions de projection.
Au Prado, justement, Ciné Horizontes présentait La Nuit du Frisson. Pourquoi un focus sur ce genre, dans le sens où on retrouve dans beaucoup de petits cinémas en France cet engouement pour le gore ou les snuff movies en mode film Z? Est-ce désormais l'apanage d'une certaine classe bobo hipster en manque de référence, ou au contraire, c'est là que s'inscrit le côté léger et l'humour noir face à la crise que vous vouliez mettre en avant?
Alors, ni l'un ni l'autre. Notre frisson, là, il avait rien de snuff movie, etc. C'était, en gros, du thriller, du Alex de la Iglesia, enfin, un film avec Ricardo Darín, des choses assez traditionnelles. Il s'agissait de montrer, comme d'habitude, l'actualité du cinéma espagnol. Il s'avère que dans l'actualité du cinéma espagnol 2012-2013, il y avait des films noirs qui étaient importants. Donc, c'est pas une histoire ni de bobo, ni de hipster. Enfin, c'est pas le genre de question qu'on se pose.
C'est un rapport avec la crise, justement.
Non.
Espagnol.
Pas
non.
Du tout. C'était trois films sans aucun rapport avec la crise. Après, ce qui est vrai, c'est que les Espagnols sont férus de cinéma de genre. Donc voilà, là ça faisait peut-être... Mais c'était pas des films très alternatifs hein, dans Notre Nuit du Frisson.
Le film de Alex de la Iglesia qui a d'ailleurs été primé pour meilleur scénario. Donc en fait, La Nuit du Frisson a marché. Merci.
Merci à vous.
Elle a marché cette nuit du frisson. Et donc, justement, sur ce palmarès, on va y revenir un peu plus ensuite, de Alex de la Iglesia. Qu'est-ce que C'est important de mettre en avant un film un petit peu comme ça, qui, je sais pas, qui est à la fois dans le genre, mais qui en sort aussi, dans ce genre noir dont on parlait là.
C'est pas une histoire de genre, c'est notre boulot, c'est de donner à voir du cinéma espagnol de qualité. Ce qui suppose de dénicher des perles rares, des premiers films, mais aussi de suivre certains réalisateurs comme Alex de la Iglesia, qu'on a déjà reçu et dont on donne tous les films tous les ans, qu'ils soient bons ou pas. C'est notre boulot de montrer les films de Alex de la Iglesia, qui est un des grands cinéastes en Espagne.
Merci Lauriane pour cette interview. Merci Roxana d'y avoir répondu avec sincérité. J'aimerais juste revenir sur le coup de chapeau que le festival a donné sur les jeunes réalisateurs, parce que ça me paraît important, une sorte de coup de pouce pour rapprocher Marseille et l'Espagne, un coup de pouce pour cette Espagne en crise et ses créateurs qui, malgré les épreuves actuelles, continuent à alimenter nos imaginaires. Ça aussi, c'est dans l'édito du festival. Justement, il y a un film qui s'appelle Stockholm de Rodrigo Sorogoyen. Et toute l'équipe de ce film qui a été réalisé en seulement 12 jours est un groupe d'amis très professionnel, animé par la rage de réussir. Et d'ailleurs, le co-réalisateur de ce film me confiait avec un sourire ô combien sincère qu'il eût cru quand ils ont appris avec toute l'équipe. Ils avaient reçu notamment 3 prix au festival de Malaga et une excellente critique pour ce film Stockholm. Nous sommes rencontrés avec le réalisateur au soleil d'hiver de la place Castellane, pas très loin du Prado. On écoute et on en parle ensemble par la suite. Rodrigo, tu me disais justement que ce film, c'était un sueño, un rêve, puisque tu as travaillé avec des amis, en fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? En quoi c'est un, voilà, c'est un rêve?
Bon, je te disais que premièrement, c'était un défi, Premièrement, un défi, parce que c'était très difficile de faire ce film pour nous, sans aucune idée, et de gouvernement, de télévision, de producteurs grands. Donc, c'était un défi. Personnes qui ne sont pas producteurs, comme moi, comme Borja, comme tout notre ami, on est en train d'apprendre. Et dans les 2 années ou 3 ou 2 années et demie qu'on a fait les films. Donc, on ne savait jamais comme seraient les résultats finaux. Mais, très peu à très peu, pour moi, et je crois que pour tous, il a devenu un rêve. Parce que c'est vrai qu'on a eu la chance, et on a fait le film qu'on a voulu. Et c'est un film qui est bon. Pour le moment, les uniques choses qu'il nous donne sont des choses bonnes, des bonnes nouvelles. Donc, il a devenu un rêve juste pour ça, parce qu'on est amis, on a travaillé très très bien, les résultats c'est pour nous incroyable, les résultats du film. Après, les résultats dans les festivals, dans tout le monde, les critiques, tout le monde, bon, ils sont très 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 bons et jamais on aurait imaginé ce résultat.
Et tu parlais donc d'un manque de budget, hein, ça a été financé de budget, ça a été financé notamment par du mécénat privé. Sur internet, j'imagine aussi des gens qui font des dons, des micro-dons pour produire un film, et vraiment donc un film indépendant au sens premier du terme. Est-ce que ça crée un lien particulier avec le public, ce genre de financement?
Évidemment, oui. Et on le dit beaucoup de temps, beaucoup de fois. Avec ce type de micro de financiation, c'est les choses que tu as dit. On a créé une relation avec eux très 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 fort pour deux motifs, non, deux raisons. Il y a un agradecimiento, un remerci pour eux, donc tu les dois quelque chose. Mais après, il y a une responsabilité parce qu'ils ont mis la confiance avant de voir le film, que ça c'est une chose totalement bizarre, jamais ça se passe, non? Tu connais le film d'Almodovar et tu vas la voir et après tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Mais ici non, ici, le public il dit je veux que ce film il se produit et c'est pour ça que je donne mon argent, un petit peu d'argent ou beaucoup d'argent, ça dépend. Donc, il y a une responsabilité avec eux. Et on espère n'avoir pas déçu.
Un cinéma indépendant à mini-budget, passé maître dans l'art de la débrouille, porté essentiellement par la passion. Alors justement, Roxana Nadim, on vient d'entendre Rodrigo Sorogoyen, le réalisateur de Stockholm, et il dit, voilà, on a un petit budget, c'est 60 000 euros, je crois. le budget pour ce film, quelque chose comme ça, approximativement. Qu'est-ce que ça montre sur ces jeunes réalisateurs qui font des films malgré tout, malgré le manque d'argent, malgré peu de budget, mais qui arrivent tout de même à être programmés dans des festivals, avoir des prix, avoir un retour du public, hein, c'est important ce qu'il dit, assez positif.
Mais je sais pas, c'est la mode maintenant de dire que oh, c'est génial, avec 2,50 francs, ils font un film. Enfin, c'est quand même nouveau que les artistes ils aient du pognon pour produire de l'art. Mmh. On a quand même fait de l'art tout le temps, sans avoir de l'argent. Et puis, je veux dire, l'invention des droits d'auteur, c'est quand même quelque chose de très récent à l'échelle de l'art. Donc non, ça me paraît pas dingue qu'un premier film soit fait avec des bouts de chandelle. Parce que oui, effectivement, quelques dizaines de milliers d'euros pour faire un film, c'est rien du tout, rien du tout, rien du tout.
Mais c'est pas dingue. Et le résultat, on n'est pas plus...
C'est que on remue, on brasse beaucoup d'air à dire ça tout le temps en ce moment. On dira vraiment, ils n'ont pas de rond et tout ça. Bah, les musiciens, ils n'ont pas de rond, ils font de la musique quand même. Enfin.
Mais justement, est-ce que c'est plus créatif quand on n'a pas de rond?
Mais non.
Non?
Mais non, c'est pas plus créatif quand on n'a pas de rond. Et puis après, tous ces réalisateurs qui s'autoproduisent, c'est très bien, c'est fabuleux. Mais produire un film, c'est quand même un travail. C'est pas juste trouver de l'argent, quoi. Ça s'invente pas.
Justement.
Et ça rend pas plus créatif d'être pauvre. Enfin, ça dépend. Parfois oui, parfois non.
Ça dépend.
Il y a des pauvres qui sont de bons artistes et des pauvres qui sont de mauvais artistes. C'est partout. Et puis on peut faire des films à très gros budget qui sont de très bons films aussi.
Justement, en parlant de très bons films, ça c'est mon avis. Est-ce que ça va être le tien? Illusion de Daniel Castro qui a reçu. El Gran Premio du festival. Rapidement pour.
Alors là,
pour,
en plus, c'est un film à 20 000 euros.
En plus,
rien.
Encore moins. Pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, c'est un long métrage de 60 minutes, hein, donc un court long métrage, un moyen métrage, je ne sais pas. C'est un long métrage.
Bon. Oui, c'est un bon.
Et on suit Daniel Castro, le réalisateur, qui joue son propre rôle hein, de jeune réalisateur idéaliste en mal de contrat. Et la ville de Madrid, justement, comme dans les films de Woody Allen, est très joliment mise en valeur. C'est ce que j'ai apprécié, le tout. Et drôle, fin et intelligent. On écoute un petit extrait d'entretien réalisé avec lui. Et ensuite, on en discute. Bonjour ou bon matin, Daniel.
Bonjour.
Ça fait quoi de raconter son histoire à l'écran, au cinéma?
Bon, je crois parfois que c'est l'unique histoire que je peux raconter. Je crois que je suis scénariste professionnel, je travaille à la télé, dans des séries, mais je trouve que l'unique histoire que je suis vraiment qualifié pour raconter, c'est une histoire qui me touche de très proche. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut raconter des histoires. Et c'est peut-être la seule que je peux me raconter avec une certaine autorité, je crois, je trouve.
Et une certaine légitimité aussi, peut-être?
Oui, exactement. Parce que je crois que même si mon métier professionnel, c'est d'essayer de me mettre dans la peau des autres, je crois que c'est vraiment quelque chose de très difficile et parfois d'un peu... faux.
Et on a peut-être déjà dû te le dire, mais moi j'ai beaucoup senti de l'influence de Woody Allen quand même dans ce film notamment, avec donc tu joues ton propre rôle avec des plans caméra où tu parles finalement aux spectateurs, hein, au public. Est-ce que c'est une influence Woody Allen pour toi vraiment?
Oui, bien sûr. Il y a même des références directes dans le film à Woody Allen, à Annie Hall notamment. Et oui, bien sûr, je ne sais pas, je crois que c'est peut-être mon cinéaste le préféré, je crois. Mais il y a aussi d'autres influences comme Nanni Moretti d'Italie. Je crois qu'il a pris peut-être le modèle de Woody Allen, mais pour le faire un peu plus européen et peut-être un peu moins formule comique, en introduisant des éléments de politique et de la réalité de son pays. Et moi, j'apprécie ça aussi.
Justement, la vie dans ton film, le personnage le présente la vie comme quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, qui doit être heureux. Et j'ai beaucoup aimé la référence à Michael Haneke, où le personnage, du coup, est complètement déprimé de voir des films qui présentent des personnes aigries, tristes. Et quelle est vraiment ta conception de la vie? Est-ce qu'à travers ce film, tu donnes aux spectateurs un peu de ta personne, de ton intimité, de ce que tu penses de la vie, de ce qu'elle doit être?
Je trouve que un peu ma conception de la vie, elle est dans le film, ouais. J'ai essayé. Et pour moi,
cette conception,
elle est ironique. C'est pour ça que j'ai élu ce titre qu'en espagnol, ça veut dire quelque chose de... un grand espoir. Illusion, ça veut dire non seulement une illusion un mirage, mais aussi un grand espoir. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette image aussi triste du personnage tout seul au centre de Madrid, en pyjama, avec son poster de Annie Hall. Parce que j'aime ça, j'aime la contradiction où il semble que la vie est seulement triste, mais, et peut-être c'est ça la vérité, mais pour la vivre, il nous faut avoir un certain espoir, même si c'est un espoir idiot qui n'a aucun sens.
Alors ce film, donc Illusion de Daniel Castro, a reçu, et j'en suis ravie, le grand prix hein, du Festival Ciné Horizontes, Roxane Nadim, vice-présidente du festival. Alors, une réaction sur ce film.
C'est hyper bien. C'est hyper bien. Et c'est... Alors, c'est pas hyper bien parce qu'il avait que 20 000 euros pour le faire. Je pense que s'il avait eu 1 million, son film aurait été encore mieux parce que le cinéma, ça suppose un budget. Mais c'est un très chouette film. Il est, lui, acteur de son film. Scénariste, réalisateur, et c'est une autoproduction. Donc oui, vous l'avez dit Mélanie, c'est l'histoire d'un scénariste qui a écrit un scénario sur los pactos de la Moncloa. Les pactes de la Moncloa, c'est les pactes qui sont ratifiés entre le gouvernement, les partis politiques, les syndicats, etc., pour passer à la transition après la mort de Franco. C'est signé en Franco meurt en 75 et les pactos de la Moncloa en 77. Bref, c'est un épisode historique sur la transition espagnole. Et lui, il veut en faire un film, mais il veut en faire une comédie musicale, ce qui est quand même très drôle. Et donc, il y a un moment où il chante une chanson sur Santiago Carrillo, qui était l'ancien président du Parti communiste espagnol et qui a joué un rôle très important dans ces pactos de la Moncloa. Et oui, effectivement, c'est un film extrêmement drôle. Et tout ce qu'il dit sur Haneke est absolument juste et absolument drôle. Il y a un moment dans le film, il vend des DVD et des livres
dans une librairie. Oui.
Dans une librairie. Voilà, parce que pour gagner sa vie, parce que voilà, il est un peu loser, quoi, son projet de film, ça marche pas. Et à un moment, il y a une jeune fille qui vient pour acheter trois films de Haneke, il veut pas lui vendre, et il dit que chaque fois qu'on vend un DVD de Haneke, el mundo se hace peor, le monde devient pire, quoi.
C'est extrêmement drôle.
Et c'est vrai, en fait, enfin, voir un film de Haneke et mourir, quoi.
Et puis on a envie d'avoir de la joie, hein, comme Daniel Castro dans cette époque, donc c'est vrai, c'est un très bon film, très intelligent, moi j'ai trouvé. Puis on voit Madrid est mise en valeur, je le disais tout à l'heure. La ville est joliment mise en valeur, assez sobrement, mais d'une manière intéressante.
Oui, c'est marrant, c'est pas un truc qui m'a frappé, moi, dans le film.
Ah oui ?
Non.
Bah, c'est pas grave.
c'est pas le truc qui m'a frappé. Parce que justement, vous avez la comparaison avec les films new-yorkais de Woody Allen, où voilà, il y a un ancrage urbain très fort. C'est vrai que moi, la présence de Madrid dans ce film-là ne m'a pas frappé.
Très bien. On réécoute quand même Daniel Castro, enfin on l'écoute à nouveau sur là plutôt dans cet entretien, mais surtout sur on revient sur la crise espagnole, hein, comment on la rend au cinéma, comment on fait des films avec ça, voilà, on écoute.
Être réalisateur, jeune réalisateur aujourd'hui en Espagne, ou en Europe même peut-être, hein, une crise assez profonde du cinéma, comme tu le disais, un film que tu as réalisé avec peu de budget, avec un petit budget, mais qui arrive finalement à un beau film, et c'est peut-être là l'espoir. C'est quoi être réalisateur aujourd'hui en Espagne ? Comment on fait quand on est jeune et qu'on veut réussir et qu'on veut transmettre des messages ?
Bon, il y a vraiment deux côtés à la situation, deux points de vue sur la situation en Espagne maintenant. La crise, bien sûr, elle a pratiquement tué la production conventionnelle de cinéma en Espagne. Il n'y a que les noms les plus connus qui peuvent tourner un film à la manière habituelle. Mais aussi, on a n'avoir presque aucun espoir de faire un film conventionnel a mené beaucoup de réalisateurs en Espagne à décider de faire des tout petits films avec beaucoup de liberté. Alors moi, je trouve qu'on a la plus grande crise, mais comme disait un journaliste d'El Mundo la semaine dernière, aussi on vit une espèce d'âge d'or des tout petits films avec tout plein de jeunes réalisateurs ou de réalisateurs qui ne sont plus très jeunes, mais qui veulent veulent tourner un film. Et alors, on trouve des films plus libres et peut-être un peu moins... Je ne sais pas comment dire. En espagnol, on dit acartonados. Un peu moins artificiels que les films qu'on tournait donc, quelques années auparavant, quelques années avant.
Qui étaient plus bruts.
Ouais, qui étaient un peu trop conventionnels. Et maintenant... Peut-être ils sont un peu moins parfaits, mais techniquement, ils sont peut-être un peu plus libres et plus authentiques.
La créativité dans des temps de crise qui finalement ouais. un peu sort comme la movida hein, ouais. à l'époque en ouais. Espagne. Peut-être on connaît une nouvelle ou une seconde movida. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ouais, peut-être. Parce que si politiquement et socialement, on est en train de vivre un moment de questionner tout ce qu'on a admis comme véritable pendant les dernières 30 années, 40 années. Alors c'est peut-être un moment un peu, ouais, qu'il a à voir avec la phase de la movida, ouais.
Merci beaucoup, Daniel Castro, et puis bon courage et bonne chance pour la suite.
Merci à vous, merci.
Non, je lui dis bon courage et bonne chance pour la suite sans savoir qu'il va recevoir le Grand Prix, c'est charmant, je trouve. Voilà ce que je retiens en tout cas pour ce coup de chapeau sur les jeunes réalisateurs, peut-être parce que moi aussi, en tant que jeune, si tant est que cette catégorie existe, j'ai envie de croire que tout est encore à faire sans oublier les difficultés inhérentes de notre époque. J'ai envie de croire que l'avenir n'est pas foutu, mais qu'il est devant nous et qu'il est à construire ensemble avec folie, vitalité, espoir et peut-être des bouts de ficelle de budget. Peu importe, faire ce que l'on peut avec ce que l'on a, mais le faire vraiment et sans peur. Roxane Nadim, toujours avec moi dans ces studios, une réaction peut-être sur un autre pan du palmarès de Cine Horizontes, un autre film, coup de cœur.
Ouais, coup de cœur absolu, Hier no termina nunca, Hier ne termine jamais, le dernier film d'Isabelle Coixet, qui a lui aussi été fait avec 2 francs 50, enfin tourné dans des conditions avec très très peu de jours de tournage. C'est un huis clos très théâtral, sur fond de crise, puisque un homme et une femme se retrouvent en 2017 dans une Espagne absolument ravagée par la crise. Et puis progressivement, l'homme est parti vivre en Allemagne. Et il revient, non, je dis pas pourquoi, et il retrouve cette femme qu'il a follement aimée. Et puis progressivement, on s'aperçoit que à cette tragédie collective de la crise se mêle une tragédie bien supérieure, bien plus touchante, bouleversante, qui est une tragédie intime, personnelle, et qui est une histoire d'amour. Et
deux prix d'ailleurs, hein, pour les prix, deux acteurs.
Et deux prix, ouais, parce que deux très grands acteurs, Javier Cámara, qui a eu dans notre festival le prix du meilleur acteur, et Candela Peña, très très grande actrice aussi, qui a déjà été primée et qui a fait d'ailleurs un discours qui a été primé au Goya pour le film de Sesgay, qu'on a passé aussi pour Una pistola en cada mano, et qui a fait un discours quand elle a reçu son Goya au début de l'année 2013. Elle a eu un discours très très engagé contre justement les restrictions budgétaires et les politiques d'austérité en œuvre en Espagne.
Alors, on va retrouver Magali Dumoussol-Esquer une dernière fois, spécialiste de la contre-culture, pour savoir, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, quel écho, justement, a la Movida aujourd'hui, un écho dans la crise espagnole actuelle. Voici son point de vue sur la question.
Dans la crise actuelle espagnole, qui est différente, hein, qui est politique, sociale, beaucoup plus profonde aussi, monétaire, financière, quel écho fait la Movida des années 80 aujourd'hui?
Alors c'est une question très intéressante parce qu'on parle de la crise actuelle, mais il ne faut pas oublier que lorsque la Movida est à son apogée, dans les années 80-84, l'Espagne connaît également une crise très forte avec un taux de chômage très important, historique jusqu'à la crise actuelle. Et je crois que la réponse, c'est Almodovar qui nous la donne dans son dernier film, Les Amants Passagers, puisque ce film a plusieurs niveaux de lecture et c'est notamment une vision de la crise actuelle en Espagne. Et Almodovar nous explique que dans les années 80, ils s'en sont sortis grâce à une certaine frivolité, et il se demande si peut-être actuellement ce n'est pas cette voie qui pourrait sauver à nouveau l'Espagne. La réponse, la frivolité, la bendita frivolidad, la frivolité bénie, telle que l'appelait un autre grand photographe de la Movida qui était Pablo Pérez Mingues.
Rire et chanter.
Rire et chanter.
Merci Magali.
Merci à vous.
La frivolité en temps de crise, Roxane Nadim.
La frivolité de tout temps.
Jolie réponse. Je vais finir avec un extrait d'Alberto García Alix encore. Et cette voix magnifique du rocker tendre tatoué de partout. Écoutons.
Et je vois que sur ta main, il y a marqué « nada y todo ». Une main nada, une main todo. Alors.
Comme ça, si je deviens muet, je pourrais toujours parler. Non, c'est une métaphore de la vie, sur la vie. C'est curieux, ça fait si longtemps que je suis tatoué que je ne me rends plus compte de mes tatouages.
Et aujourd'hui, tu préfères nada ou todo?
Todo.
Tout.
Vale, gracias.
Même si je n'arriverai jamais à tout avoir.
Todo, gracias.
C'est sur ce todo, sur ce je veux tout de la vie et le rire communicatif d'Alberto García Alix que nous conclurons cette émission. Un parti pris, certes, mais un choix qui résonne comme la volonté d'ouvrir encore et toujours l'horizon des possibles, même et surtout en temps de crise. Merci Roxane Anadim d'avoir été le fil rouge de cette émission, rouge comme la passion de l'Espagne.
Ouais.
C'est bien.
Merci Mélanie, ouais c'est bien.
Et vivement la 13e édition du festival, un chiffre qui vous portera chance, j'en suis certaine.
Merci.
Merci à Magali Dumoussolesquer, notre spécialiste de la contracultura, pour son amour de la Movida et pour ses excellentes explications du phénomène. Je rappelle le titre de son livre, La Movida au nom du père, du fils et du todo vale, aux éditions Le Mot et le Reste, disponible dans les bonnes librairies. Un grand merci à la disponibilité et la gentillesse de l'équipe du Festival Cine Horizontes, mention spéciale à Sophie Sutra pour l'organisation des interviews et à Zoé Romero pour son aide précieuse de traductrice franco-espagnole. Merci aux invités d'exception rencontrés à cette occasion, témoignage sans égal d'une Espagne libre et créative d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je vous rappelle que les entretiens dont vous avez pu écouter les extraits sont disponibles en intégralité sur radiogrenouille.fr sur la page de cette émission spéciale. Le meilleur et le plus fidèle pour la fin, merci à Lauriane pour son travail follement précis de montage et de son. Un grand merci à Seb, JB, Victor aux commandes de cette émission, maestro de la technique, des manettes et de la patience. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, le slogan de la Movida, la vida solo se vive una vez. L'existence ne se vit qu'une fois. Transcendons-la ensemble autant que faire se peut et transformons, comme disait Baudelaire, la boue en or. Pour l'heure, je rends l'antenne avec Walk on the White Side de Lou Reed, hommage à un grand poète sensible, inspirant et hors cadre, lui aussi, qui s'est éteint récemment. Je vous dis à très vite sur les ondes parallèles de la grenouille. À vous les studios. Take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot